Bonsoir et bon début de semaine à tous. Adoption la semaine dernière à l'Assemblée nationale de la loi portant création du Conseil économique et social en RDC. Cette structure aura pour mission notamment de donner des avis consultatifs sur des questions économiques et sociales lui soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. Elle peut également, de sa propre initiative, en formuler. Quelle analyse faire de l'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale? Quel pourrait être son impact sur la vie économique et sociale de la RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 15 avril 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jean-Baptiste Koumassamba, député national de la majorité et cadre du parti politique MSR. Monsieur Jean-Baptiste, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Grégoire Bakandeja, professeur de droit économique et des finances publiques dans les universités en RDC et en République du Congo, ainsi qu'à l'Université de Paris et Sorbonne en France. Professeur Bakandeja, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Michel Soumé, économiste et expert indépendant. Bonsoir, Michel.
Bonsoir, Kylie.
Merci parce que vous êtes déjà nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Franklin Kouma et de Lubumbashi Katanga qui dit ceci. Avez-vous déjà vu une loi changer quelque chose en RDC? Il n'y aura rien. Je me demande si les mécanismes et modalités de fonctionnement de cette structure ont été préalablement bien étudiés. Merci de nous sous-reporter en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
L'Assemblée nationale a examiné et adopté la semaine dernière la proposition de loi portant création du Conseil économique et social en RDC. Les députés dotent ainsi le pays d'un instrument qui lui permettra de définir clairement la politique économique et sociale de la nation. On écoute les grandes lignes de cette loi avec le député Henri Thomas Lokondo, son auteur, donc auteur de cette proposition de loi. Il est au téléphone d'Alain Hirung.
Les grandes lignes de cette loi sont définies dans la Constitution qui a voulu que nous puissions mettre en place cette loi parce que c'est une loi organique. Le Conseil économique et social est simplement un organe qui donne des avis consultatifs au chef de l'État, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement et aux autres structures de l'État. Le Conseil économique et social tel que conçu dans cette loi sera une espèce de parlement économique et social, c'est-à-dire qu'on va donner des avis sur tout ce qui se fait dans le domaine économique. Et il peut lui-même aussi en proposer quelques avis sur la manière de faire des politiques générales dans le secteur économique et social. Puis il sera composé de toutes les couches de la population qui vont venir de l'intérieur, comme ici au niveau de Kinshasa. Il sera composé des représentants de tous les secteurs de la vie nationale qui s'occupent des problèmes économiques et sociaux.
Honorable, on sait que cette structure est constitutionnelle, mais la première législature s'est terminée. On est à la deuxième législature. La loi ne vient-elle pas en retard?
Je ne le pense pas. En 64, le premier gouvernement de la République avait pensé aussi à mettre en place un conseil économique et social, mais avec le coup d'État du 24 novembre 65, il n'a pas pu fonctionner. Même le président Mobutu avait mis en place le CCPD pour analyser les mêmes problèmes, de même nature, sur le plan économique et social. Et même le président Laurent Désiré Kabila avait mis aussi une petite structure comme ça. Donc, c'est pas car.
C'était là le député Henri Thomas Lokondo, auteur de cette proposition de loi portant création du Conseil économique et social en RDC. Jean-Baptiste Koumassamba, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du parti politique MSR. Vous êtes deuxième vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. C'est vrai que la Constitution prévoit la mise en place, la création de ce Conseil économique et social en RDC, mais depuis 2006, on n'en a pas parlé. Mais quelle est l'opportunité aujourd'hui d'avoir ce Conseil économique et social en RDC?
Oui, madame, la loi organique qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale est avant tout l'expression de la volonté du constituant. Et en son article 210, la Constitution détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social. Mais avant ça, il y a les articles 208 et 209 de la même Constitution qui indiquent la nécessité pour notre pays, comme les autres bien sûr, d'avoir un cadre de concertation structuré pour améliorer le vécu quotidien de nos populations. Donc cette loi, à notre avis, est une réponse à une préoccupation, c'est-à-dire celle de faire participer toutes les couches de la population à l'évolution de la conjoncture économique.
Pourquoi seulement aujourd'hui, mais depuis 2006 que la Constitution existe?
Mais je ne sais pas s'il existe un temps pour mieux faire. Cette proposition de loi avait été faite en son temps, et comme l'auteur a si bien indiqué, en 64, il y a eu, suivant la constitution de Louisbourg, la création du Conseil économique qui n'avait pas fonctionné. Et après, il y a eu bien d'initiatives, mais pour l'heure, au regard de dysfonctionnements et de contre-performances observées, l'Assemblée a jugé opportun de pouvoir mettre à la disposition de pouvoir public cet instrument qui pourra améliorer les concertations dans ce cadre-là. En fait, il n'y a pas besoin d'indiquer le moment. Il n'y a pas un moment bien précis de dire ça devait être fait en ce moment-là. Il y a eu des initiatives, mais pour l'heure, pour nous, c'est le moment indiqué parce que la loi a été adoptée.
Alors, cette structure aura pour mission notamment de donner des avis consultatifs sur des questions économiques et sociales. Est-ce que cela veut dire que ces avis peuvent être acceptés ou rejetés?
En fait, la saisine pour que le Conseil donne des avis, la saisine est bien fixée par la loi, soit le chef de l'État, soit l'Assemblée nationale, soit les Sénats. Mais il y a aussi la possibilité que ce Conseil se saisisse à sa propre initiative pour donner des avis sur ce qui se passe dans nos différentes provinces. Et comme tout organe consultatif, le Conseil économique et social est avant tout un conseiller au service des institutions établies afin de donner chaque fois une sonnette d'alarme par rapport à l'évolution de la conjoncture économique. Et comme vous le savez, les avis, donc c'est un organe consultatif, mais également un organe qui a pour objectif de promouvoir du moins les échanges entre les différents acteurs.
Mais est-ce que ce n'est pas une faiblesse, la faiblesse de cette loi, parce que les conseillers, ils vont juste émettre leurs avis, ça ne sera pas des décisions. Donc, les avis seront acceptés tout comme rejetés.
Oui, moi je crois qu'il faut pas voir la chose en termes d'acceptation ou de rejet, parce que ces institutions qui saisissent ou qui demandent des avis en ont besoin. C'est pour améliorer la prise des décisions. Et il faut aussi noter, madame, que ce conseil sera composé des différentes couches de la population et surtout des experts avertis dans le domaine économique et social. Donc c'est pas vraiment un organe à prendre à la légère, parce que c'est voulu par les constituants, et les avis seront analysés et pris en compte dans la prise de décision.
Et les membres qui feront partie de ce conseil seront désignés comment? Comment ça va se passer concrètement?
Oui.
On sait que c'est 64 membres.
Oui, oui.
Il y a 64 conseillers.
Bien sûr. La désignation des membres se fait par les catégories professionnelles. C'est-à-dire que s'agissant par exemple des associations féminines, des associations des femmes, ce sont ces associations-là, selon les normes, les règles établies, les règles de fonctionnement établies par les associations, qui vont désigner leurs membres. Donc ce sont les différentes catégories sociales qui ont le pouvoir de désigner leurs représentants comme membres au Conseil économique et social.
Est-ce que ça n'existe pas de prendre beaucoup de temps pour désigner les membres qui feront partie de ce Conseil économique et social?
Non, moi je ne crois pas, parce qu'ici on veut laisser une certaine autonomie de volonté à toutes ces associations-là, de sorte que la désignation ne soit pas pas politisée. Voilà, c'est comme ça que nous avons voulu laisser le libre choix aux catégories professionnelles de désigner leurs représentants qui vont faire corps, donc ça va pas prendre le temps.
Merci, honorable Jean-Baptiste Koumassamba. Professeur Grégoire Bakandeja, je rappelle que vous êtes professeur de droit économique et des finances publiques dans les universités en RDC en République du Congo, ainsi qu'à l'Université de Paris en Sorbonne en France. Quelle analyse vous faites de l'adoption de cette loi portant création du Conseil économique et social en RDC?
Bon, je peux tout simplement dire que il était temps qu'on institue dans le pays un organisme de ce type, parce que le Conseil économique et social, dans la plupart des pays, constitue des services d'intelligence économique et politique, et même juridique. On a pris beaucoup de temps à l'avoir au Congo, parce que bon, l'Assemblée nationale vient de faire une proposition, ça c'est une belle initiative, il faut le saluer, et il y aura encore un temps pour que ça passe au Sénat, qu'on en discute, et ça prendra du temps, alors que le pays a des problèmes sérieux, des problèmes économiques, des problèmes d'aggravation de la pauvreté. Quand on est en arrière-pays, on se rend compte du degré d'aggravation de la pauvreté dans notre pays qui justifie qu'il y ait des penseurs, c'est-à-dire des conseillers pour aider l'État, parce que d'abord c'est les conseillers de la République pour aider l'État à avoir des meilleures politiques publiques dans les domaines de l'économie, le domaine du social. Et très souvent, vous voyez même au niveau des chambres législatives, la plupart des lois qui sont votées pêchent pas mal par l'écriture, et il y a souvent une écriture malheureuse, la législation n'est pas respectée. On se permet de faire parfois du copier-coller de législation étrangère et on n'attaque pas au problème que rencontrent les populations régulièrement. Et donc, ça, c'est une belle initiative, c'est l'appréciation que je donne dans un premier temps. Il restera maintenant à savoir comment ça va fonctionner réellement, quelle autonomie on va donner à cette structure dans les avis que le Conseil pourra donner au Président de la République, au Parlement, Assemblée nationale, Sénat, ainsi qu'au gouvernement. Nous attendons voir pour l'apprécier. Sinon, l'idée est positive.
Alors vous saluez...
Il restera donc à voir comment ça va fonctionner normalement.
Vous saluez cette initiative, professeur, mais vous estimez qu'elle arrive en retard.
Oui, elle arrive un peu en retard. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez les politiques de développement qui ont été menées dans notre pays, de chaque gouvernement qui applique ces politiques, il n'y a pas une programmation des actions du gouvernement ordonnées, planifiées dans le temps avec une boussole qui indique à telle période il faut faire ça, à telle période il faut faire ça, parce que le développement qui est visé ici c'est un développement durable. Donc on ne peut pas se baser simplement sur le quotidien, mais il faut qu'on pense aussi aux capacités pour les générations futures de se servir de ce qu'auront construit les pères. Or, au Congo, on se comporte comme si la vie s'arrête avec ceux qui sont là, qui dirigent. Alors qu'on sait qu'il y a des gens qui ont dirigé avant, il y en a qui dirigent aujourd'hui, il faut que d'autres dirigent demain, mais il faut qu'ils trouvent un pays solide. Or, ça, ce n'est pas la préoccupation des Congolais, et ça rentre d'ailleurs dans le cadre de la gouvernance d'une manière générale. Vous savez, la représentation de la société a toujours posé un problème. Certes, les élections au suffrage universel, on pense que les élections au suffrage universel constituent une réponse à ces préoccupations de développement des pays. Mais comme on s'est rendu compte qu'il y a des ratés en matière de politique publique, en matière de programmation, si vous prenez les cas des membres du gouvernement, chaque membre du gouvernement, antérieur comme aujourd'hui, qui arrive, il pense que celui qui était là a mal fait, lui il va innover, changer les choses et on revient à la case de départ. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de boussole. Et le Conseil économique et social devrait alors jouer ce rôle de boussole pour présenter le cap et savoir comment on va faire pour atteindre tels objectifs en matière de développement pour répondre aux préoccupations des populations en ce qui concerne l'amélioration du vécu quotidien, du social.
Merci.
Donc, c'est important.
Alors, professeur Bakan, déjà, vous restez en ligne. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo, au nord Kivu.
Katembo Visika, en ville de Butembo. Je salue cette nouvelle vision des chefs de l'État. Pour moi, ce conseil économique et social, c'est une voie salutaire pour les Congolais. Car de tous les projets portant sur l'amélioration du social, le chef de l'État a remarqué la non-réalisation. Alors, nous souhaitons pour que cette structure soit fructueuse, la vraie solution et qu'elle soit gérée par des citoyens qui ne répondront pas aux besoins politiques, il faut qu'ils puissent travailler non plus avec les politiciens, mais plutôt avec les hommes apolitiques, notamment les religieux.
Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Bakan, déjà? Les membres qui doivent constituer ce conseil doivent être apolitiques. Ils proposent même qu'on mette des religieux dans ce conseil.
Mais vous savez, nous avons des exemples au Congo, il y a des religieux qui sont des politiques. Et la politique se joue aussi à ce niveau-là. Donc, moi, je vais simplement dire, pour montrer l'importance d'un tel conseil. Nous avons des difficultés maintenant en matière de décentralisation financière. Si on avait un conseil économique et social composé d'êtres normaux, crédibles, experts, etc., on aurait évité de consacrer dans la Constitution cette histoire des 40% dont on sait que et il y a des conséquences. Quand vous avez des ressources de l'État que vous devez céder aux provinces, sur le plan extérieur, vous n'avez plus de crédibilité parce que vous diminuez les ressources de l'État. Et avant même qu'on arrive à cette décentralisation, il faut mettre en place des mécanismes, des contrôles, de l'utilisation des recettes qui vont être cédées aux provinces. Mais on ne l'a pas fait. Mais on s'est rendu compte finalement que on ne peut pas appliquer les 40%. Lorsque, en 2006... 2006-2007, nous avons procédé au renforcement des capacités des députés provinciaux. On leur avait expliqué qu'il y a eu une erreur dans la Constitution de consacrer ce partage de ressources entre les provinces et le pouvoir central, parce qu'il y a des conséquences négatives et qu'on sera le seul pays à avoir consacré dans la Constitution. Ça posera des problèmes.
Merci.
Les gens n'ont pas voulu comprendre. On n'a pas voulu comprendre, mais non, on se rend compte qu'on ne peut pas appliquer, parce que si, même dans le cadre de découpage, ça posera un problème, on ne découpe pas.
Merci professeur, je vous redonne la parole tout à l'heure. Merci professeur, je vous redonne la parole tout à l'heure. Michel Soumé, vous êtes économiste et expert indépendant. Cette loi arrive-t-elle en retard ou il n'y a pas un temps précis pour la mise en place ou la création de ce conseil économique et social?
J'ai failli dire qu'elle est arrivée même un peu plus tôt, cette loi. Parce que quand on lit l'histoire du Conseil économique et social, sa première initiative remonte à l'année 1900, précisément 1925, où la loi a été publiée créant le premier Conseil économique national en France. Ce que nous sommes en train de faire, c'est essayer de recopier un tout petit peu l'histoire de ce qui s'est passé en France. Mais ce que nous devrions aussi savoir, c'est que dans cette histoire, le Conseil économique et social se présente comme une nécessité de coupler la démocratie politique avec une certaine démocratie socio-économique. Donc c'est le principe de démocratie dans une nation, si vous permettez que je répète comme ça, c'est dans une nation où la démocratie est une nécessité et où elle est effectivement avancée et vécue, que l'on peut ressentir ce besoin impérieux de se doter d'un conseil économique et social comme une structure qui parachève justement le processus démocratique du pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Est-ce que le Congo est-il déjà suffisamment avancé dans la voie démocratique pour qu'un conseil économique et social vienne justement aider l'État à travers ses institutions à résoudre des questions qui rencontrent les préoccupations majeures de la population? Parce que quand on observe un tout petit peu le comportement de bon nombre de nos institutions aujourd'hui qui existent, qui sont créées, qui ont été appelées de tous les vœux dans toutes les différentes constitutions, on a parfois l'impression que certaines d'entre elles fonctionnent un tout petit peu comme des chambres d'humiliation de l'intelligence nationale. Quand on regarde certains comportements de certaines institutions, on peut même se poser la question si ce n'est pas, encore une fois, un cadre qui est tendu qui vient d'être créée pour tendre un nouveau piège à l'intelligence nationale pour qu'on voit des gens qui viennent sombrer dans le ridicule, trahir la conscience et trahir l'intelligence et la science en même temps. C'est l'impression que ça donne dans certains cas. Moi, je dirais que quand je regarde également le comportement de certaines structures, si vous voulez, quand on observe la plupart des structures qui existent dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale et ailleurs, ils ont des cabinets de conseillers. Dites-moi, laquelle des structures, quel gouvernement, quelle institution, quel poste de l'État respecte vraiment les avis des conseillers?
Et quand on... Donc il y aura un problème qui va se poser à ce niveau-là.
Mais déjà, quand vous avez des conseillers que vous prenez simplement par nécessité de leur donner un job, en vous foutant énormément des avis qu'ils vous donnent, je ne vois pas par quel miracle, personnellement, ce Conseil économique et social va pouvoir, qui n'est qu'un organe clairement consultatif, va pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie économique et sociale dans notre pays.
Il n'y a pas d'opportunité de mettre en place pour le moment?
Je dis que le Conseil économique et social est une structure très importante, mais dans un pays où la démocratie est avérée.
On parle de la RDC, prenons le cas de la RDC.
Et si je parle de la RDC, je constate que la RDC, la démocratie est encore trop jeune, elle est encore en train de tâtonner, nous sommes en train de tergiverser, nous sommes en train de bricoler même, s'il faut dire des choses telles qu'elles sont. Nous nageons un pied dedans, un pied dehors. La démocratie n'est pas encore un acquis dans notre pays. C'est un effort qui est en cours. Je devrais d'ailleurs commencer par féliciter toutes les initiatives qui ont concouru à ce qu'existe ce Conseil économique et social, parce que je note en cela la bonne foi. Mais seulement, j'estime que, regardez, là, quand vous voyez la composition même du Conseil économique et social, partout où il existe, en France, on l'appelle même plus comme ça, bon, ça a même évolué encore pour le Conseil économique, social et environnemental.
Et environnemental, oui.
Quand vous regardez les compositions, en fait, c'est une structure de la société civile, chez nous aussi, semble-t-il. Mais on suppose que dans ces pays-là, les syndicats ont un rôle majeur à jouer. Qu'il s'agit des structures, je parle des syndicats, qui, dans leur objectivité, étant plus proches de la réalité sociale et économique, sont effectivement motivés par des facteurs qui vont contribuer à ce qu'un pays avance. Quelle est la situation, l'état de notre société civile congolaise? À quoi ressemble-t-elle effectivement? Comment fonctionnent nos syndicats? Quel est le poids d'un syndicat dans ce pays? Ça, ce sont des questions, je pense, qui se posent aujourd'hui, et je crois que nous aurions dû travailler encore un tout petit peu la démocratie pour arriver à créer des structures petit à petit, et surtout une conscience des hommes qui animent des structures, qui puissent comprendre l'importance de ces structures-là. Quand on ne connaît pas l'importance du cabinet, des conseillers dans un cabinet ministériel, à quelque niveau que ce soit, je crois qu'il faut être un peu réservé.
Merci Michel Soumou. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga.
Professeur Ignace Ndala, depuis Kolwezi au Katanga, je pense que si les questions économiques et sociales n'ont pas de solution digne, cela n'est pas causé par l'absence des structures, mais bien de celles des personnes crédibles et respectueuses des valeurs humaines. 60 agents de plus à payer, un dédoublement d'institutions et donc des rôles pour le gouvernement. J'estime qu'il nous faut réajuster le tir.
Dédoublement d'institutions, des dépenses de plus que le gouvernement doit faire.
Ben oui, je suis totalement d'accord avec le professeur qui vient d'intervenir. Je crois, moi, comme je venais de le dire aussi, qu'il fallait d'abord permettre aux institutions existantes aujourd'hui de s'assumer effectivement. Parce que le spectacle auquel nous assistons dans ce pays, à tous les niveaux, m'inquiète. Qu'on regarde le comportement au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est une autre Assemblée qu'on est en train de créer. Et je crois que l'honorable Lokondo l'a dit, c'est une Assemblée économique, une Assemblée nationale économique, si vous voulez, je peux parler comme ça. Mais quand on regarde le comportement de notre Assemblée nationale, quand on regarde la qualité, la valeur des hommes qui sont dans ces structures-là, est-ce que vraiment nous pouvons être fiers d'avoir des institutions dans ce pays-là? Moi, c'est quand même des questions qui interpellent une certaine conscience. Il faudrait qu'on mûrisse une certaine conscience de l'homme et qu'on ne soit pas là pour trahir les valeurs fondamentales.
Merci Michel.
Aux besoins, disons, pour à cause de la pauvreté.
Merci Michel Soumoué, Jean-Baptiste Koumassamba. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur.
Chef de travaux Jean-Bernard Mibeko Missia, Mbandaka, province de l'Équateur. Ce qui nous intéresse est plus l'impact que ce conseil pourra avoir sur la vie économique et sociale de la RDC. Étant donné que ces avis sont consultatifs, n'y a-t-il pas là le risque de voir ces recommandations rejetées si elles ne rentrent pas dans la logique du gouvernement? Quant au nombre de membres, 64 à notre avis, c'est trop car il faut songer aux implications financières. Comment allons-nous financer ces nouvelles dépenses?
Jean-Baptiste Koumassamba.
Oui, merci. La question que soulève notre compatriote est des détails. Celle de l'impact de ce Conseil économique et social.
L'impact, nous serons dans la deuxième partie. Il dit plutôt, c'est si n'y a-t-il pas la risque de voir les recommandations rejetées si elles ne rentrent pas dans la logique du gouvernement. Donc chaque fois que le Conseil va émettre des avis qui n'entrent pas dans la logique du gouvernement, est-ce que ça ne risque pas d'être rejeté? Et puis par rapport au nombre 64 membres, il estime que c'est trop car il faut penser aux aspects financiers et puis il demande comment vous allez financer ces nouvelles dépenses, comment ces nouvelles dépenses seront.
Oui, je commence par le deuxième volet de la question de notre compatriote. En fait, le nombre de 64 a fait l'objet d'un débat houlé au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous sommes partis de 122 pour atteindre 64. Et l'objectif pour nous a été de tenir compte des couches représentatives de notre population, et lesquelles doivent participer au processus de réflexion sur les questions économiques. Et ces membres-là, les 64 qui ont la fonction du conseiller, seront bénéficiaires d'une indemnité de cession. Et nous avons pris des dispositions tel que ça va émarger au budget de l'État. C'est vrai que c'est des dépenses additionnelles, mais nous avons voulu que cet organe ne soit pas un organe budgétivore. C'est pour cela que le nombre a été réduit. Et je voudrais aussi indiquer, là c'est en réponse au premier volet de la question, que la désignation de membres de ces conseils tient d'abord compte de l'expertise. Donc ce sont des gens qui ont une expertise avérée en matière économique et sociale, et que, comme nous l'avons voulu, et comme voulu par les constituants, c'est vrai que c'est un organe consultatif, mais les avis qu'il donnera sur des questions économiques et sociales feront l'objet d'un examen approfondi, parce que c'est une émanation, c'est une demande qui vient des institutions. Donc je vois très mal comment les institutions qui ont besoin des avis pour améliorer la manière de décider, de programmer le développement socio-économique du pays, puissent rejeter des avis. Je crois que tous les problèmes, comme mon co-débatteur l'a dit, c'est l'homme congolais que nous sommes. Nous devons et arriver à accepter des choses et les appliquer comme il se doit. Et si nous les acceptons de cette manière-là, je crois que, comme dans d'autres pays qui ont déjà ces conseils et qui a fait du chemin, qui a fait ses preuves, notre pays peut arriver à décoller.
Alors, il y a Robert Bahomé de Bukavu, c'est pour vous. Oui. Jean-Baptiste Koumassamba, il dit ceci: on a essayé très souvent, adopter une loi est une chose, l'appliquer en est une autre. Les risques est grand que cette loi sous le Conseil économique et social souffre à l'instar des autres lois déjà adoptées et promulguées. Quelles sont les garanties pour qu'on évite cette réalité?
En fait, il a raison. Voter ou adopter une loi est une chose, sa mise en application en est une autre. Mais je voudrais que notre compatriote comprenne que au Parlement, une réflexion qui est déjà avancée est en train d'être menée pour un contrôle de la mise en exécution de toutes les lois. Parce que nous ne devons pas être faiseurs de lois, on pond de lois dont l'application est en souffrance, et le Parlement, les deux chambres sont conscientes de cet état des choses, et une réflexion qui est déjà avancée est en train d'être menée pour que nous puissions mettre sur pied un contrôle de l'exécution de loi, de sorte que dans les 6 mois qui suivront la promulgation d'une loi, le Parlement puisse s'assurer que les dispositions réglementaires que sont prises et que la loi commence ou connaît un début d'exécution. Mais tout ça, c'est aussi dans l'homme congolais, c'est l'homme congolais qu'il faut travailler. Parlementaires, gouvernement, merci, institutions, société civile, nous devons nous approprier de choses que nous-mêmes nous acceptons pour que cela marche.
Merci Jean-Baptiste Kumasamba. Quel pourrait être l'impact de cette loi sur la vie économique et sociale de la RDC? C'est la deuxième partie de notre émission. Je rappelle que je reçois dans cette émission pour les débats Jean-Baptiste Kumasamba, député national de la majorité et cadre du parti politique MSR. Il est deuxième vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Professeur Grégoire Bakandeja, professeur de droit économique et des finances publiques dans les universités en RDC et en République du Congo, ainsi qu'à l'Université de Paris 1 Sorbonne en France, et Michel Somoué, économiste et expert indépendant. Professeur Grégoire Bakandeja, la mise en place de ce conseil pourrait-elle avoir un impact sur la vie économique et sociale de la RDC?
Mais vous savez, madame, tout dépend de la politique qui sera adoptée pour nommer, par exemple, ou désigner les membres de cette commission. Si on rentre dans les habitudes que nous connaissons au Congo, de désigner les gens selon les composantes politiques, etc., ça ne donnera aucun résultat, parce que on n'ira pas chercher la technicité, on va se livrer à un jeu politicien de clientélisme. Mais je sais que dans presque tous les pays du monde, on ne dirige plus par diktat, on dirige toujours par concertation. Voilà pourquoi l'idée de consacrer un tel organisme ou une telle institution en République démocratique du Congo pourrait être une voie pour sortir un peu de la situation que nous connaissons actuellement, où on n'a pas de boussole. On n'a pas de boussole en matière de gestion économique, parce que chacun veut faire ce qu'il veut sans tenir compte de l'impact de ce qu'il va faire sur le vécu quotidien des populations. Je prends seulement un exemple, lorsqu'on forme des gouvernements avec plusieurs partis politiques, etc., mais c'est suivant quel programme. Il faut avoir un programme et appliquer ce programme-là. Et le Conseil pourrait alors servir à tout gouvernement de ce pays de se doter d'une politique cohérente en matière de développement économique, pour que on sente sur le terrain qu'il y a des avis qui ont été émis, par exemple, en ce qui concerne les questions liées, quelle politique devons-nous adopter pour permettre au pays de retrouver les repères et contribuer au développement du pays. En ce moment-là, on appliquera des politiques qui puissent attirer davantage les investissements, tant au niveau national qu'au niveau international. Quelle politique pourrait-on adopter vis-à-vis des entreprises pour que les populations puissent avoir un emploi décent, avec des salaires décents? C'est comme ça que on pourra apprécier l'impact de ce conseil, et notamment sur les questions environnementales. Vous savez que nous avons au pays aujourd'hui le problème du changement climatique, qui fait que nous vivons dans un pays où le climat a complètement changé. Il fait très chaud. Est-ce qu'il faisait chaud avant? On doit se poser la question, pourquoi il fait très chaud? C'est peut-être parce que on n'a pas suffisamment mis en œuvre toutes les mesures qui pouvaient concourir à l'amélioration du cadre de vie, avec tout ce qu'il y a comme coupe des bois et coupe d'arbres, non plantation plantations d'arbres pouvant permettre de redonner une vie nouvelle et contribuer à avoir une atmosphère qui puisse permettre à l'homme de vivre décemment.
Alors, il y a des réactions, professeur. Beaucoup d'auditeurs nous écrivent. C'est le cas de Pepe Lisungi de Kisangani, dans la province orientale, qui dit ceci. Cette loi n'apportera rien dans ce pays, car ce n'est pas la première loi votée. Il y en a plusieurs déjà votées, mais pas respectées. Il faut savoir, il pense que la création des sex structures est politique, une façon de donner des postes aux gens qui n'ont pas encore été récompensés par la majorité. Maître Awazi Bin Chabani de Bougne en province orientale, nous attendons la mise en place de cette institution, néanmoins qu'on tienne compte de la sélection objective de ces animateurs, d'autant plus qu'on nomme souvent les gens en leur demandant de rendre l'ascenseur au moment opportun. Et les auditeurs sont quand même assez sceptiques quant à l'impact de ce conseil sur la vie économique et sociale de la RDC.
Mais les gens doivent comprendre une chose. Dans presque tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les services d'intelligence. Les services d'intelligence économiques, juridiques, sont des services de veille. Des services de veille sur les politiques qui sont mises en œuvre et des services qui permettent de se servir des expériences étrangères pour améliorer les conditions de vie dans le pays. Et nous n'avons pas ces services au Congo jusque-là. On n'a pas de services d'intelligence. C'est ce qui fait qu'on tâtonne. Et vous savez, je crois que dans l'exposé des motifs, on reprend bien pourquoi on n'a pas pu instaurer des structures de ce genre. On le dit depuis 1964. Et on avait prévu dans la Constitution, et puis on sait ce qui s'est passé. Et ce que je peux faire comme observation, c'est en rapport avec le dernier point qui a été soulevé dans l'exposé des motifs. On donne la raison du fait que le cadre permanent de consultation économique n'a pas marché, parce que ça n'a pas été publié au journal officiel. Non, ça c'est pas une raison valable. Il faut la volonté des dirigeants de collaborer, parce que une économie porte sur quoi? L'économie porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échangé. Qui produisent? Ce sont les entreprises. Donc on a besoin de discuter avec les entreprises et non pas leur imposer des politiques ou des mesures qu'elles ne peuvent pas accomplir parce qu'une entreprise qui perd de l'argent puisqu'elle doit payer des impôts, elle est répercute sur la population.
Merci,
donc,
professeur.
Donc voilà pourquoi on avait prévu ce cadre de concertation. Je me rappelle, c'était à l'époque, moi j'étais au gouvernement, j'étais parmi les initiateurs de ce décret, mais on n'a pas suivi après.
Merci, professeur. On vous redonne la parole juste après, Michel Sommet. Quelles pourraient être, selon vous, les chances de réussite de la mise en place de ce Conseil économique et social en RDC?
Madame, vous savez, j'ai toujours appelé de tous mes voeux qu'il y ait des débats sur et en faveur de l'organisation d'une économie congolaise qui puisse rencontrer les aspirations, les besoins de la population. Donc un cadre comme celui-là, Conseil économique et social, ne devrait que rencontrer mon adhésion totale. Cependant, je formule des réserves, étant donné que par vocation...
Vos réserves, c'est à quel niveau? Par rapport à la désignation des membres, par rapport à la mission de ce conseil?
Par rapport d'abord au niveau d'avancement de notre démocratie, par rapport à ce qui est, en fait, qui est le cadre favorable, ou même d'ailleurs impératif pour l'existence de, qui est impératif pour qu'il existe effectivement un conseil économique et social. Par rapport également à la maturité, à la nature et à la propension de nos syndicats existants qui sont les membres naturels du conseil économique et social, par rapport à leur propension à répondre aux besoins d'une économie effective. Nous avons, par exemple, dans ce pays, trois principaux syndicats patronaux. La FEC, la FENAPEC et la COPEMICO. Tout le monde sait de quel côté se tournent les regards de la FEC. Le gouvernement lui-même le sait mieux que moi et le dit mieux que moi. Il sait très bien quels sont les intérêts qui sont défendus par la FEC. Sont-ils intérêts vraiment congolais ou des intérêts étrangers? La FENAPEC et la COPEMECO, tout le monde sait que ce sont des structures qui sont des coquilles vides. Parce que personne n'en veut et personne ne veut les soutenir. C'est-à-dire qu'on va avoir un conseil économique et social dont les membres représentent des structures vides ou plutôt simplement hostiles aux intérêts nationaux. C'est ce qu'on risque d'avoir. De l'autre côté, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, il ne manque pas dans ce pays une intelligence nationale capable de promouvoir une véritable économie et de promouvoir de bonnes politiques. Il y en a. J'ai dit tout à l'heure que regardez tous les cabinets ministériels qui existent. Vous ne pouvez pas, j'ai été plusieurs fois moi aussi membre de cabinet ministériel, mais vous ne pouvez pas m'indiquer aujourd'hui un Congolais ministre qui a du respect pour ses conseillers. Ce sont des employés simples. En quelque sorte, comme a dit tout à l'heure un des intervenants, le Conseil économique risque de ne servir que d'une case d'emploi pour absorber un certain chômage de certains membres de la famille ou de certains amis, et qui donc ne va pas apporter un plus à ce que j'appelle l'économie nationale. À la richesse individuelle, peut-être oui, mais l'économie nationale, je doute un peu. Mais si, par contre, le Conseil économique et social que l'on vient, qui va être certainement créé, parce qu'il ne l'est pas encore, si ce Conseil économique, les dirigeants du pays veulent vraiment lui donner son importance, comme je l'ai lu dans le programme du gouvernement, le gouvernement a démontré, parce qu'il a inséré dans son programme économique comme une nécessité pour faire avancer l'économie nationale, et je vois que le Parlement a pris la balle au bon et le Conseil économique et social est là, je dis félicitations. Si vraiment cette volonté se traduit par une vérité dans les faits, à ce moment-là, je crois que nous aurons un impact très positif sur le plan de notre économie si on accepte qu'un débat soit fait et que le Conseil économique ne soit pas un cadre, comme je peux dire, d'allégeance politique. Si on veut qu'une intelligence économique, comme dit le professeur Bakande, le service d'intelligence économique, oui, mais si on veut que cette intelligence s'exprime objectivement et sans pesanteur, à ce moment-là, nous pouvons espérer beaucoup de ce Conseil économique et social.
Merci Michel Somé Jean-Baptiste Koumassamba. Vous pensez que ce Conseil pourra avoir un impact positif, je dirais, sur la vie économique et sociale en RDC?
Oui madame, ce Conseil aura un impact positif sur la vie économique.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Dans la mesure où ce Conseil se veut une manière d'impliquer toutes les couches qui représentent notre population. Mais là où je rejoins
Michel,
c'est l'homme congolais, parce que l'impact
donc ou le résultat
attendu de la mise en œuvre de ce Conseil est ce que nous voulons, nous, Congolais, institutions, tous les citoyens, qu'est-ce que nous voulons de ce Conseil? Parce que ce Conseil existe dans bien des pays. Et nous avons tout intérêt à nous servir ou de nous servir de l'exemple de certains pays qui ont mis en œuvre pareil organe et qui a donné des résultats. Je crois que nous devons d'abord nous approprier de la démocratie. Je suis tout à fait d'accord que notre démocratie est jeune. Mais dans cette jeunesse-là, nous avons un apprentissage à faire. Et le Conseil, c'est l'implication de toute la population. Et lorsque la population s'implique, et lorsque la population est consciente du rôle qu'elle doit jouer pour donner une impulsion au développement économique de notre pays, les résultats ne peuvent être que positifs.
N'aurait-il pas risque de politisation de cette institution? Ça sera aussi votre conclusion?
En tout cas, nous l'avons voulu non politique, parce que dans la désignation de ses membres, on laisse le libre choix aux associations, il y a des syndicats, il y a des organisations patronales, les organisations des femmes, la société civile, et ce sont des conseillers. Les modalités de fonctionnement de l'administration est déterminée par le règlement intérieur.
Merci Jean-Baptiste Koumassamba. Professeur Bakan, déjà en 30 secondes, votre conclusion.
Mais la conclusion, c'est qu'on doit... Moi, je ne pense pas qu'il faille jeter l'opprobre sur... la volonté du gouvernement et du Parlement de se doter d'un outil aussi important qu'est le Conseil économique et social. C'est important d'avoir ce Conseil, mais on doit veiller à ce que les personnalités qui seront invitées à l'animer soient des personnalités qui répondent à des critères de compétence, de moralité, de crédibilité.
Merci.
Dans la société.
Merci professeur Bakandeja. Michel Somoué.
Madame Levin est tirée, il faut le voir. Les dés sont jetés, comme on dit. Le Conseil économique et social a été invité à l'architecture institutionnelle du Congo depuis la Constitution. Et bravo au Parlement qui a, qui a, qui permet de son existence. Et bravo au gouvernement qui l'a voulu aussi. C'est bon. Mais nous regardons. C'est ce qui est important. Nous restons regardés pour voir si vraiment ils sont sincères.
Merci Michel Somoué. Dialogue entre Congolais, c'est fini. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.